Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous dit que Jésus est mort pour nos péchés et que dans ses meurtrissures, nous avons aussi la guérison, à la fois celle de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. Que de malades il a guéri quand il exerçait son ministère sur cette terre. Et quand il a quitté ce monde, il a promis à ses disciples qu'il continuerait à faire des miracles en réponse à leurs prières. Ce qu'on voit par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, et dont on a toutes sortes de témoignages dans l'histoire de l'Église. Et encore aujourd'hui, que de beaux témoignages, nous montrant que le Seigneur est toujours vivant, qu'il exauce toujours les prières de ceux qui crient à lui, qu'il est toujours désireux de soulager, de délivrer et de guérir. Et en même temps, il y a aussi tout un enseignement dans l'Écriture sainte à propos de la guérison divine, et il nous sera certainement profitable au plus haut point de l'aborder ce soir, même si on ne pourra pas le couvrir en entier, évidemment. Tout d'abord, donc, le témoignage d'un miracle extraordinaire qui s'est produit tout à fait à la fin du XIXe siècle. Il y a de nombreuses années, donc, dans la grande ville de Denver, aux USA, un jeune couple se penchait au chevet de leur premier-né, regardant avec angoisse leur petit garçon privé de santé physique et mentale, et dont les membres contractés et difformes offraient un triste spectacle. Le docteur de famille avait diagnostiqué une méningite cérébro-spinale avec fièvre cérébrale et d'autres complications qui rendaient le cas inguérissable. Ce jeune couple était chrétien. Le docteur, ami personnel de la famille, secouait tristement la tête. Il s'adressa un jour à la maman. « Je suis obligé de vous le dire, confessa-t-il. Il n'y a aucun espoir. Si cet enfant vit, ce sera un miracle. » Mais il sera toute sa vie un pauvre idiot. La fièvre a fait rage avec une telle intensité dans son corps que si je devais ouvrir la boîte crânienne et toucher le cervelet, il tomberait en miettes comme du toast brûlé. Votre enfant n'aura donc plus jamais la faculté de connaître. Le bienveillant docteur cherchait en vain à réprimer son émotion et de grosses larmes coulaient sur ses joues. « Chère maman, dit-il, si je croyais qu'il y avait quelques lueurs d'espoir, « je dépenserai ma fortune pour sauver votre enfant. Je ferai venir des médecins de Vienne et des spécialistes de France. Je parcourrai le monde, dépensant jusqu'au dernier centime de mes épargnes pour sauver la vie de votre enfant, que j'aime comme mon propre fils. Mais la science médicale ne peut rien faire. Si vous me le permettez, je donnerai un calmant à votre petit garçon. Je dois vous dire que son cœur n'est pas très fort et il se peut qu'il s'endorme pour ne plus se réveiller sous l'effet du narcotique. » Il vaut mieux qu'il meure, car s'il vivait, il ne serait qu'une horrible créature. Comme elles étaient vraies, les paroles du docteur. Ce petit être était tellement difforme que ceux qui entraient dans la chambre en sortaient vraiment malades. Sa colonne vertébrale était pliée en deux, à la renverse, de sorte que la tête touchait les talons. Il ressemblait à un jouet d'enfant que l'on aurait plié en deux puis tordu en spirale. Croisant les mains et les décroisant dans un geste de désespoir, la mère essayait de saisir les promesses de Dieu. Pourquoi cela devait-il leur arriver? Pourquoi ce châtiment? Pourquoi cette terrible agonie? Cet enfant avait été demandé à Dieu, donné par lui, consacré à lui. Où avait-elle fauté? Le jeune père essayait de la consoler, mais dans de tels moments, on ne peut apporter qu'une bien faible consolation. Le 21e jour, le père dit à sa femme, « Chérie, les factures arrivent, nous devons payer le loyer et je ne sais ce que nous demandera le docteur. Il faut que j'aille au travail. » « Tu sais, ajouta-t-il avec un tremblement dans la voix, que le docteur a dit que c'était une question de temps, mais il ne peut vivre longtemps. Si tu vois qu'il est plus mal, envoie son cousin au magasin et je viendrai immédiatement. » La journée de travail s'écoula lentement. Le père ne reçut aucune nouvelle. Il fut agité tout le jour, se concentra difficilement sur son travail. Le soir, il se précipita sur sa bicyclette et se mit à pédaler de toutes ses forces. Tout à coup, au milieu du trafic, il entendit une voix prononcer clairement ces paroles. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est dans la Bible, l'Écriture sainte, dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 7. Il se retourna d'un côté, puis de l'autre, pour voir s'il y avait une réunion en plein air, mais ne vit rien. Alors il leva les yeux pour voir s'il y avait peut-être quelqu'un qui répétait des versets de la Bible à quelques fenêtres, mais il ne vit personne. Encore quelques coups de pédale, et la même voix, mais cette fois avec plus de force, répéta les mêmes paroles. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si ce n'était pas la voix d'un homme, ce devait être la voix de Dieu. Mais pourquoi ? Quel était donc ce message ? La dernière partie de la phrase semblait s'imprimer fortement dans son esprit. « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pourquoi devrait-il résister ? Résister à cette angoisse terrible qui étreignait son cœur ? Résister aux doutes qui se glissaient dans son esprit ? Résister à cette maladie ? Serait-ce possible ? Arrivé dans la cour de la maison, il sauta de son vélo, monta l'escalier 4 à 4 et fut accueilli par sa jeune femme. Elle mit le doigt sur sa bouche pour lui indiquer de ne pas faire de bruit. « Comment est-il » demanda-t-il doucement. Il a poussé des cris tout le jour, et ce n'est que maintenant qu'il commence à dormir, si on en peut appeler cela du sommeil. « Chérie, je n'en peux plus, je ne peux supporter davantage. » Et elle éclata en sanglots. Il la caressa doucement. « J'ai quelque chose à te dire, ma bien-aimée. Quand je rentrais à la maison tout à l'heure, Dieu m'a parlé. Il m'a dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je crois que Dieu va guérir notre petit garçon. » Mais la femme continuait à pleurer. « Veux-tu que nous allions prier près de lui ?» Elle hésita un peu, elle avait tellement peur d'entendre encore ces cris de douleur si perçants. Ils s'agenouillèrent à côté du lit et prièrent silencieusement. De temps en temps, un sanglot troublait le silence. Le père, la tête enfoncée sous le couvre-lit, au-dessus du petit corps difforme de son enfant, disait tout bas au travers de ses larmes, « Ô Dieu, si c'est toi qui m'as parlé, si c'est ta voix que j'ai entendue, fais quelque chose en notre faveur. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons cru, nous nous sommes attendus à toi. Nous ne pouvons que soumettre nos vies totalement à toi. » Les parents ne pouvaient discerner aucun mouvement dans le lit. Rien ne laissait supposer que quelque chose s'était produit. Et cependant, la respiration entrecoupée et saccadée de l'enfant devenait peu à peu normale. Quelques instants après, les parents se levèrent, et à leur émerveillement, ils ne virent plus la petite masse difforme sous les couvertures, mais la forme d'un corps allongé normalement. Ils soulevèrent en hâte le couvre-lit. Ô miracle ! Le dos était redressé. L'enfant devait être mort. La mère lui prit le poignet, le pouls était normal. Le père appliqua son oreille sur la petite poitrine, le cœur battait normalement. Ils se regardèrent, pouvant à peine y croire. Ils n'avaient senti aucun mouvement dans le lit. Comment cela pouvait-il s'être fait ? L'enfant était dans une telle condition quelques instants auparavant, et maintenant il était étendu normalement et paraissait dormir. Ils sortirent tous les deux de la chambre sur la pointe des pieds. La maman pleurait et remerciait Dieu, tandis que le père s'écriait « Je ne comprends pas, c'est toi qui as fait cela, mon Dieu !» Pendant toute la nuit, ils dormirent en se réveillant de temps à autre pour surveiller l'enfant, qui dormait toujours paisiblement. Le lendemain matin, le père s'en alla au travail, tandis que la maman, le cœur léger, faisait son ménage. L'enfant dormait toujours. 14h, 15, 18, 20 heures, il dormait toujours. Était-ce normal ? Dieu, qui a si merveilleusement redressé le corps de son enfant, ne le laisserait pas mourir maintenant ? Au moment même où le père rentrait du travail, ils entendirent un cri. « Maman ! Maman !» Elle se précipita dans la chambre pour trouver son petit garçon souriant, assis dans son lit, les yeux brillants. Ses premières paroles furent « Maman, pourquoi tu ne me donnes pas le flan que tu m'as promis ? » Était-ce possible ? Était-ce vraiment son petit garçon qui parlait et la reconnaissait ? La mère se précipita vers le lit et couvrit de baisers la figure du petit bonhomme qui continuait à demander son flan avec insistance. Bien des jours auparavant, sa maman le lui avait promis. « Sois bien sage, avait-elle dit, et quand tu iras mieux, je te préparerai un bon flan. » Le jeune papa se joignit à eux et le trio se mit à louer Dieu. Les parents riaient et pleuraient à la fois. « Oh, maman, disait le petit garçon, je suis si heureux que Jésus m'ait guéri. » Il n'y avait aucune trace du terrible mal sur son corps. Quelques jours après, la maman descendait dans la rue avec son petit garçon. Quand ils rencontrèrent le docteur, qui s'attendait toujours à ce qu'on l'appelle pour lui faire signer l'acte de décès. Il ne pouvait en croire ses yeux quand il vit la jeune mère et son fils. « Mais ce n'est pas votre enfant. »« Mais si, docteur, » dit la mère, « c'est bien mon petit Wesley Rowland. Dieu l'a guéri. » Le médecin chrétien, la figure baignée de larmes, se mit à remercier Dieu et à le louer sans crainte publiquement de ce que le temps des miracles n'était pas passé. Voici le témoignage. Ce récit relate la guérison de Wesley Stilberg, qui fut Roland Stilberg, qui fut un puissant évangéliste et qui a été président des Assemblées de Dieu aux États-Unis jusqu'au moment de sa mort en 1952. Voilà un beau, merveilleux témoignage. Et nous voulons ouvrir maintenant la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 13. Et nous lirons ce passage qui va du verset 4 au verset 6 avec le titre de notre prédication qui pourra être « Les causes de guérison miraculeuse » ou du manque de guérison. Et nous voulons prier. En effet, Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es toujours un Dieu capable d'accomplir des choses merveilleuses pour ceux qui se confient en toi, ceux qui se confient en ton nom, ceux qui te confient leur vie, Seigneur. Et merci parce que tu accomplis encore ton œuvre en ce jour pour chacune et chacun de ceux qui reçoivent ta parole avec bonne disposition de cœur. Merci, mon Dieu. Visite chacun et chacune d'entre nous. Accomplis encore ton œuvre maintenant. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Amen. Amen. Donc, nous ouvrirons la parole de Dieu, l'Écriture sainte, dans le premier livre des Rois, au chapitre 13, et voici ce que nous lisons au verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main !» L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Amen. Les deux livres des rois, comme leur nom l'indique, nous parlent des rois d'Israël. Il est question d'un grand nombre de ces rois, auxquels il est arrivé toutes sortes de choses. Et parmi eux, nous en voyons six qui ont été frappés par la maladie, dont un deux fois. Jéroboam avec la main sèche, ensuite Jéroboam dans son fils Abija, ensuite Asa, qui eut les pieds malades dans sa vieillesse, et puis vous avez Akasia qui a été atteint d'une maladie suite à une chute, et puis vous avez Joram, une maladie suite à des blessures, Azaria, c'est le même qu'Ozias, qui a été atteint par la lèpre, et Ézéchias, donc, qui a été atteint par un ulcère malin. Alors le fait que ces rois désignés ici ont été malades ne signifie pas qu'ils ont été plus méchants ou plus éprouvés que les autres, auxquels Dieu a pu parler d'une autre façon, car Dieu a bien des façons de s'adresser aux hommes. Mais quand Dieu utilise la maladie et la guérison miraculeuse comme moyen d'action, cela revêt pour nous un intérêt particulier, à cause de l'importance qu'a la santé pour tout homme. On peut le remarquer spécialement dans cette période où nous sommes, que ce soit à cause de cette pandémie ou que ce soit parce que nous sommes encore en début d'année où les gens se souhaitent traditionnellement aussi une bonne santé. Et remarquez aussi, dans ces exemples que nous avons énumérés, la grande diversité de ces maladies, dans le cas de chacun de ces rois. Remarquez encore que dans chaque cas, il y a une raison à la maladie que l'on peut tirer directement ou indirectement du texte. Et vous pourrez remarquer encore qu'il n'y a pas eu que ces seuls cas de maladie-là dans les deux livres des rois. Il nous est parlé d'autres lépreux, d'aveugles, de stérilité, d'autres maladies dont le détail n'est même pas toujours précisé. Il est même question de deux prophètes qui sont malades, deux serviteurs de Dieu. Ainsi nous est-il dit qu'Akasia de Silo devient aveugle. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 14, au verset 4. Il nous est dit que le prophète Élisée va mourir de maladie. dans le chapitre, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13, au verset 14. Mais il est à remarquer que tous deux en arrivent là à cause de leur grand âge. Ce qui est clairement précisé dans le verset, donc dans le cas du premier, donc dans le cas d'Achija de Silo, et ça nous est sous-entendu dans le cas du deuxième, le cas d'Élisée. En effet, d'après les calculs de chronologie qu'on peut faire, on arrive à peu près 90 ans d'âge à la mort d'Élisée, ce qui était considérable, spécialement pour l'époque. Mais si nous examinons tout particulièrement les cas de ces rois, aujourd'hui, eh bien, c'est parce que chacun d'entre eux est un exemple d'une catégorie de personnes qui existe encore aujourd'hui et que chacun de nous peut plus ou moins se retrouver en eux, et il est bon que nous puissions les considérer successivement maintenant. Revenons-en donc à Jéroboam et sa main sèche. Nous avons lu ce passage au verset 4 à 6. Alors il faut se souvenir du contexte de cette affaire. Jéroboam s'était laissé aller à l'idolâtrie. Il avait fait construire deux veaux d'or, l'un à Bethel, l'autre à Dan, aux deux extrémités de son royaume. Et il prétendait donc servir Dieu de cette façon, ce qui était évidemment tout à fait contraire aux ordres du Dieu d'Israël, et donc qui était dans le temple était à Jérusalem. Et voilà qu'un homme de Dieu a été envoyé pour avertir Jéroboam. Alors, la cause de la main sèche, c'était l'opposition de Jéroboam à la parole de Dieu, au message de Dieu. Il a voulu mettre la main sur l'homme de Dieu. Lorsque vous lisez l'Écriture, vous voyez qu'il y a encore un autre endroit dans lequel il est question d'une main sèche. C'est dans l'Évangile de Luc et au chapitre 6. Un homme à la main sèche a été présenté à Jésus un jour de sabbat, et nous voyons que Jésus a opéré le miracle qu'il a guéri sa main sèche. Pourquoi l'a-t-il guéri ainsi? Quand l'a-t-il guéri? Quand cet homme a pris position pour Jésus publiquement, contre les pharisiens qui ne voulaient pas que cette guérison soit faite un jour de sabbat. Mais quand Jésus lui a demandé d'étendre sa main, il a étendu sa main devant tous. Il a été guéri, il s'est engagé pour Jésus. Nous voyons cela. Donc ça, c'est déjà un exemple dans le Nouveau Testament. Revenons-en à Jéroboam, parce que lui aussi a été guéri entièrement. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est parce qu'il a pris position publiquement, parce qu'il s'est humilié en demandant devant tous les assistants, au prophète d'implorer l'Éternel pour sa guérison. Il a reconnu ainsi son tort et il s'est humilié publiquement de ce péché qu'il avait d'ailleurs commis publiquement aussi. Et l'Écriture nous rappelle, et c'est cela, je crois, la grande leçon que nous pouvons tirer de cela sur ce point, elle nous rappelle que celui qui avoue à Dieu ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache, celui qui s'en justifie, celui qui les excuse, bien celui-là ne verra certainement pas l'œuvre de Dieu en bénédiction pour lui. Et puis maintenant, avançons et lisons encore dans le chapitre 14, 1 Roi, chapitre 14, le passage qui va du verset 1 au verset 17. Dans ce temps-là, Abija, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. » Voici, là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux, un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils. Parce qu'il est malade, tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi, tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera, car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père, et il les dispersera de l'autre côté du fleuve, parce qu'ils se sont fait des idoles, irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirtsa, et comme elle atteignit le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra, et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Voilà. La cause de la maladie, eh bien écoutez, c'est ce manque de repentance et de changement. Malgré ce qu'il avait pu expérimenter de la puissance de la parole de Dieu, ce qui le rendait beaucoup plus inexcusable que s'il n'avait pas été au courant. Et vous savez, nous pouvons voir aussi combien le bien ou le mal de nos enfants dépendent de notre foi ou de notre incrédulité. C'est vrai que par la foi, nous pouvons voir les nôtres guéris ou bénis. Mais quelle triste conséquence si nous sommes incrédules. Triste conséquence avec ces causes. La mort de l'enfant, et c'est pourtant ce qui pouvait lui arriver de mieux, à cause du péché et de la malédiction qui était sur sa famille. Le verset 13 est là pour nous montrer, nous rappeler que le Seigneur est celui qui sauve les petits-enfants et qu'il considère que les petits-enfants qui n'ont pas eu la possibilité encore de faire le choix sont considérés comme innocents devant lui. Et pourquoi cela est-il arrivé finalement ? Bien, c'est à cause de l'endurcissement du cœur du Père dans son péché. Et aussi d'ailleurs, à cause de l'incrédulité de la mère. Elle n'a pas été une femme de foi, comme par exemple la Syrophénicienne de 1 Roi chapitre 17, qui a été un moyen de résurrection pour son fils, ou comme la Tsunamite de 2 Rois chapitre 4. Elle aussi, eh bien, par la foi, et plus elle encore même que la précédente, a pu voir son fils se relever par la résurrection. Elle n'a pas pris la parole de Dieu au mot. Car si elle l'avait fait, elle ne serait pas retournée à sa maison. Du moins, elle n'aurait pas franchi le seuil de sa maison, parce que Dieu a usé de patience envers elle, remarquez bien. Il avait dit que l'enfant mourrait quand elle entrait dans la ville. Or, il a patienté encore jusqu'à ce qu'elle franchisse le seuil de sa maison. Et c'est vrai que tout ce temps-là, son enfant était demeuré en vie. Ça lui aurait donné le temps à cette femme de lutter dans la prière, d'essayer de convaincre son mari de changer, pour que le jugement de Dieu soit ôté. Puisqu'elle était prévenue, c'était que Dieu voulait lui donner cette chance de changer. Mais elle était incrédule, et à cause de cela, son enfant est mort dès son retour. Oh, si Dieu parle à votre cœur, ne l'endurcissez pas. Prenez la parole de Dieu au mot, confiez-vous en elle, car c'est ainsi que vous écarterez le jugement de Dieu à cause de vos péchés, et que la malédiction sera changée en bénédiction. Lorsque je lis maintenant une autre situation, c'est celle d'Asa. Il dit qu'il a eu les pieds malades dans sa vieillesse. Et là, je me tourne vers le chapitre 15 et au verset 23. Et là, il est écrit « Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits, tout ce qu'il a fait, les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. » Et nous avons plus de détails sur cette histoire, hein, sur ce qui s'est produit donc pour Asa, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16, du verset 10 au verset 12. Et là, nous lisons donc 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 10. Asa fut irrité contre le voyant. Il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Quelles ont été les causes de sa maladie ? Eh bien, elles sautent aux yeux. Nous les trouvons dans ce contexte tout proche. L'oppression du voyant. Le voyant, ce n'était pas un voyant qui pratiquait des choses occultes, c'était un prophète, on l'appelait ainsi. Hein. L'oppression de cet homme de Dieu qui lui avait parlé de la part du Seigneur, on le voit, il avait dit des choses qui ne lui étaient pas agréables, mais qui lui étaient nécessaires et salutaires à ce roi. Et puis, il nous a dit qu'il a opprimé aussi quelques-uns des membres du peuple. Et puis, en troisième raison, le manque de reconnaître sa faute, de demander pardon à ceux à qui le mal avait été fait, et le manque de se tourner vers Dieu en repentance et en foi. Alors, certains pourront dire peut-être qu'Asa était un vieillard, qu'il n'était donc pas anormal qu'il finisse par être malade, comme nous l'avons vu dans le cas des prophètes Achija et Élisée. Nous en parlions tout à l'heure. Mais ce qui n'est pas voulu de Dieu, ce sont ces grandes souffrances qui accompagnaient sa maladie et dont il nous a fait mention dans ce texte biblique. Et finalement, son péché a été non seulement de ne pas chercher l'Éternel, mais de consulter les médecins. Et le mot hébreu, ainsi traduit, inclut aussi la pratique de rites magiques et occultes absolument incompatibles avec la parole de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et ceci nous parle aussi de la terrible responsabilité de ceux qui touchent aux choses occultes et qui se préparent ainsi aussi de grandes souffrances. Et ceci nous parle également, dans la maladie, de chercher l'Éternel avant de se tourner vers les médecins, alors que nous aurions parfois si facilement tendance à faire l'inverse. Et la conséquence, eh bien, ça a été la mort du roi, suite à cela donc dans de grandes souffrances. Quel dommage ! Cette mort a un goût de défaite, à la fin d'un règne béni de Dieu par ailleurs. Et même si l'enterrement sentait bon, il nous a dit dans 2 Chroniques 16, verset 14, la bonne odeur de Christ sera-t-elle sur lui pendant l'éternité de gloire ? Voilà la question qu'on peut poser sans pouvoir y répondre favorablement. Et ceci nous parle aussi de cette nécessité de se délier des choses occultes et de reconnaître ses fautes en se tournant vers Dieu pour être béni. Et maintenant, nous lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 1er et au verset 2. Deux Rois, chapitre 1er et verset 2. Et là, il est question de la maladie d'Acasia suite à une chute. Or, Acasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez consulter Baal-Zébub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Tomber par un treillis peut paraître un accident malheureux, banal, stupide, comme il s'en produit, hélas, tellement, hein, des accidents même dans les maisons, dans les appartements, les gens chez eux. Hein. Dans les statistiques, on voit des gens qui ont pu échapper à de grands périls, mais qui meurent stupidement chez eux, avec un de leurs instruments ménagers ou journaliers. Mais même la main de Dieu est dans cette affaire, comme le montre l'intervention de l'ange de l'Éternel pour envoyer le prophète Élie sur le chemin des messagers. Hein, donc on voit cela dans la suite, lorsque les messagers vont consulter Baal-Zébub, ils vont rencontrer le prophète de Dieu, donc qui va leur parler de la part du Seigneur envoyé par l'ange de l'Éternel. Et a posteriori, on pourra voir que cette maladie qui a suivi cet accident a été permise en fait à cause de l'idolâtrie d'Acasia. Et la conséquence, eh bien, ça a été hélas la mort du roi à cause de cette obstination à vouloir rester dans la mauvaise voie, à vouloir continuer à lutter contre les serviteurs de Dieu à cause de son manque de repentance et de changement. Et pourtant, combien Dieu aurait voulu, là encore, que le méchant se repente, se convertisse et qu'il vive ? N'est-ce pas à cause de cela qu'il a envoyé son serviteur Élie ? S'il avait simplement voulu que ce roi soit perdu, il n'aurait pas fait avertir à l'avance comme il l'a fait. Et aujourd'hui de même, Dieu nous envoie sa parole prêchée pour nous avertir, afin que le jugement, la condamnation, la mort ne viennent pas sur les uns, sur les autres, mais que nous soyons sauvés, que nous soyons guéris et que nous soyons bénis. C'est la manifestation de son amour et de son puissant désir de salut. Je poursuis maintenant et je trouve le cas de Joram, maladie suite à des blessures, 2 Rois chapitre 8 et au verset 29. Commençons à lire au verset 29 et nous continuerons à lire dans le chapitre 9, après. Il est marqué là, « Acasia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jisréel, parce qu'il était malade. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile, va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la répandras sur sa tête et tu diras « Ainsi parle l'Éternel, je toins, roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit « Auquel de nous tous ?» Il répondit « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge, réponds-nous donc !» Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, « Ainsi parle l'Éternel, je toins, roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu en haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, « Jéhu est roi !» Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Asaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jisréel. » Voilà, on va arrêter là pour l'instant. Donc, la guerre contre les Syriens, la cause donc, de cette maladie, on se rappelle, la guerre contre les Syriens, à Ramoth en Galade, là où même son propre père, Akab, avait été tué, donc le père de Joram, et ne l'ont pas fait de rappel des raisons pour lesquelles Akab avait été ainsi tué, parce que lui aussi n'avait pas tenu compte de la parole de Dieu, avait résisté à cette parole. Mais Joram, quant à lui, eh bien, a persévéré dans la mauvaise voie de son père. Et il en était résulté, en tout cas pour le moment, ses blessures. Qui était douloureuse, qui était maligne, il était malade de ses blessures, probablement s'était-elle infectée. Et combien on peut rencontrer aujourd'hui de ces gens qui sont blessés par la vie, qui sont blessés dans la vie, de toutes sortes de façons. Ils sont blessés dans leurs affections, dans leur confiance, dans leur idéal, dans leurs ambitions, dans leur personne, dans leur âme, dans leur corps, que sais-je. Et c'est bien souvent aussi à cause de cet héritage qu'ils ont recueilli bien involontairement de leur père que beaucoup sont ainsi blessés. Parce que si nous pouvons recevoir de bonnes choses de nos pères, il arrive hélas aussi bien fréquemment que nous en recevions de moins bonnes dans le lot, dont il nous faudrait être débarrassés. Et la mort violente, ça va être la conséquence, à cause justement, là encore, de son manque de repentance et des choses occultes et idolâtres tolérées et pratiquées dans sa famille. Et là, je lis au verset 22. « Dès que Joram vit Jéhu, il dit « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit « Quoi, la paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges ?» Jérusalem tourne à bride, Joram pardon, tourne à bride et s'enfuit. Il dit à Akazia, trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans le char. Et oui, c'est vrai. Combien il nous faut suivre la voie du Seigneur. Et si la voie de nos pères ne nous y conduit pas, et que tout lien occulte, tout sortilège, toute magie, toute divination et toute autre forme de spiritisme ou d'occultisme, bien que tout cela soit délié dans le nom de Jésus, pour que ce ne soit plus la violence qui puisse amener une telle triste conclusion de notre existence, mais que ce soit la paix, la joie et la bénédiction du Seigneur. Bien des choses seraient à dire encore, mais il nous faut parler maintenant d'Azaria ou Ozias. Alors, dans 2 Rois, chapitre 15, au verset 5, il s'agit bien sûr du même roi, du même personnage, avec deux appellations différentes. Il est marqué là, verset 5, « L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. » Nous avons plus de détails sur cette affaire, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26 et au verset 16, nous lisons pourquoi le Seigneur a agi pour frapper Azaria ou Ozias ainsi. En effet, là, de Chroniques 26, verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. » Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Et oui, là aussi, la cause, nous le voyons, c'est cet orgueil. Cet orgueil qui a fait qu'il a voulu prendre une place et une gloire qui ne lui revenaient pas. Nous voyons comment, en plus, il s'est irrité contre les serviteurs de Dieu qui, pourtant, venaient lui parler pour son bien. Et ceci, dirais-je, est d'autant plus grave qu'il avait été abondamment béni auparavant. Dieu avait agi à son égard de manière très favorable. Il avait eu bien des miracles et des délivrances, comme nous le montre le contexte précédent notre passage. Et voici la conséquence, une lèpre qui durera jusqu'à sa mort, et même qui aura encore des conséquences après sa mort. Azaria ou Ozias s'est-il repenti ? A-t-il cherché la face du Seigneur ? Cela ne nous est pas dit. En tout cas, Dieu ne l'a pas guéri de sa maladie. Et de même, si nous avons été bénis par le Seigneur, combien il nous faut demeurer humbles devant lui ? Combien il nous faut être et demeurer à son service ? Parce que c'est ainsi qu'il pourra continuer à nous bénir sans autre interruption, suivant ce qui est véritablement son désir et sa volonté. Et puis nous en arrivons maintenant à Ézéchias. Ézéchias, donc, là nous sommes dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20 et au verset 1er, que nous lirons jusqu'au verset 7. Là, c'est un ulcère malin. En ce temps-là, Ézéchias se malada à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. » Alors, quelle est la cause de cette maladie? Eh bien, écoutez, elle ne nous est pas précisée, elle est inconnue. Mais en tout cas, ça ressemblait tout à fait à une décision arrêtée et irrévocable de la part de l'Éternel. « Mets un ordre dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Que faire face à cela? Considérez la façon dont Ézéchias a fait changer Dieu d'avis. Il a prié Dieu, bien sûr. Nous voyons qu'il l'a prié avec instance, il l'a prié avec larmes, il a crié à lui. Rappelez-vous, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Il lui a rappelé aussi son passé de service. Et il lui a rappelé aussi que l'œuvre qu'il avait entreprise n'était pas achevée de toute évidence. En tout cas, son argumentation a été suffisamment persuasive pour que le Seigneur lui accorde une entière guérison, une guérison miraculeuse, pour pouvoir effectivement continuer à le servir. Ah, frères et sœurs, mes amis, servez le Seigneur de tout votre cœur. C'est le meilleur moyen de le voir faire régulièrement pour vous de grands miracles dans vos vies. C'est de cette manière qu'il agira pour vous renouveler, pour vous fortifier, tout le temps que votre mission ne sera pas pleinement accomplie. Bien des choses, avons-nous dit, seraient encore à rajouter à tout cela, mais nous arrivons au terme de ce message et nous pouvons faire quelques rappels, quelques remarques importantes. Donc la première, c'est qu'il y a toujours une cause à la maladie et à tout ce qui peut nous arriver comme difficulté. La deuxième, c'est que Dieu désire que nous en recherchions les raisons. La troisième, c'est que Dieu ne veut pas que nous restions dans la maladie ou dans le malheur, mais il veut que nous soyons en bonne santé et que nous soyons heureux. La quatrième, c'est que si Dieu envoie son jugement, c'est pour nous avertir et nous tirer de tout mauvais chemin afin que nous soyons sauvés. Enfin, la cinquième, le meilleur moyen de voir Dieu agir à coup sûr pour nous, c'est de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre être. Alors, nous avons parlé de rois. Et vous et moi, nous sommes des rois aujourd'hui. Rois sur bien des choses. Rois sur toutes ces choses qui remplissent notre vie. Qu'allons-nous faire? Quel genre de roi voulons-nous être? Il est important de venir à Dieu en Jésus-Christ et d'être ainsi pleinement sauvé et béni par lui. Amen. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous enseigner ces choses importantes, ces choses primordiales pour notre existence, et ceci pour que nous puissions avoir en main tous les éléments destinés à ce que nous puissions faire de bons choix. Seigneur, que ce soit au travers du témoignage, nous avons vu que cette guérison miraculeuse a abouti à ce qu'il puisse y avoir un puissant évangéliste et un puissant serviteur de Dieu. Comme au travers des exemples qui nous sont donnés dans ta parole, à chaque fois nous voyons ce désir qui est le tien. que nos vies puissent servir à ta gloire et que tu veuilles nous donner les moyens de le faire. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Béni sois-tu pour la façon dont tu veux agir pour ceux qui se tournent vers toi. Et s'il en est qui se tournent vers toi en sincérité, en esprit, en vérité, et qui crient à toi de tout leur cœur, eh bien tu es aussi celui qui agit pour eux et qui va agir encore en leur faveur. C'est toi qui vas les sauver puissamment, Seigneur. Toi qui vas les faire marcher dans ton chemin, dans le bon chemin, la bonne voie. C'est toi qui vas faire retentir derrière eux ta parole. Voici le chemin, marchez-y. Et c'est toi, Seigneur, qui va les conduire aussi dans un service qui t'est agréable et qui en même temps leur sera grandement bénéfique. Merci, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, mes amis, eh bien, je vous rappelle que nous envisageons samedi donc d'évangéliser dans les villages avec une distribution dans les boîtes aux lettres, donc, qui doit avoir lieu. Donc le rendez-vous, c'est à l'église à 14h30 pour partir de là et faire ce travail. Le culte dimanche, eh bien, se déroulera pour les uns à 8h30, pour les autres à 10h45. N'oubliez pas, pour y participer, de vous inscrire sans tarder, soit sur le site de l'église, soit par téléphone. Et puis, je vous rappelle aussi que la réunion de prière se tient pour le moment le mercredi à 16h. Il n'est pas nécessaire de s'y inscrire pour participer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde. Amen.